Le débat du jour.
Romain Ouzoui.
Bonsoir à tous. Il est l'un des plus anciens détenus de France, peut-être le plus ancien. Michel Cardon a été envoyé en prison en 1977. Et après plus de 40 ans passés derrière les barreaux, eh bien demain, vendredi, il doit être libéré. Alors à cette occasion, dans le débat du jour, on s'interroge sur la question de la population carcérale en France. Est-ce qu'elle est trop importante? Oui, disent des chiffres qui ont été publiés en fin de semaine dernière par le ministère de la Justice et qui indiquent eh bien, qu'en France, il y a 70 000 détenus pour un peu moins de 60 000 places. Alors pourquoi une telle situation? Est-ce qu'il faut créer de nouvelles places ou est-ce qu'il faut encourager les solutions alternatives plutôt comme le placement sous surveillance électronique? C'est la question que l'on pose ce soir. Et pour débattre, nos deux invités en studio, Juliane Pinsard, bonsoir.
Bonsoir.
Secrétaire nationale du syndicat de la magistrature et juge d'application des peines. Face à vous, Juliane Mikoski, bonsoir.
Bonsoir.
Avocate pénaliste au barreau de Paris, auteur d'un rapport à la demande de la garde des Sceaux pour réfléchir au sens et à l'efficacité des peines. Sommes-nous arrivés au bout d'un modèle français dans l'organisation des prisons? Quand il a présenté son plan prison au printemps, plan prison qu'on va détailler dans cette émission bien sûr, Emmanuel Macron a dit que l'incarcération devait être le dernier recours. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec le président français Juliane Pinsard?
Ah ouais, évidemment, je suis d'accord. Je crois que personne ne peut être contre cette idée. Et les gouvernements successifs, les missions parlementaires successives, depuis des années et des années, cherchent comment lutter contre la surpopulation carcérale. Donc, c'est un énième rapport, une énième mission qui cherche à trouver des solutions.
Vous êtes d'accord, Julia Minkowski, trop de détenus en France, le nombre de détenus a presque doublé en 30 ans.
Oui, vous parliez tout à l'heure de modèle français, je crois que c'est le contraire, c'est plutôt le contre-modèle absolu, c'est-à-dire qu'on est dans un pays qui a démontré l'inefficacité de ses politiques carcérales de façon totalement extrême. Le président de la République a en effet pris des engagements. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le fait que ce serait un énième rapport, etc., puisque le fait qu'un chef de l'État vienne s'exprimer sur la question de la surpopulation carcérale, alors même qu'il est en exercice, viennent dire devant des caméras, c'était le discours d'Agen au mois de mars, qu'il faut mettre fin au tout carcéral, que c'est bien de prévoir des mesures alternatives à la prison, que parfois, en effet, la prison est vraiment la dernière chose à faire pour bien punir quelqu'un, pour que la peine ait un véritable sens. C'est la première fois que cela est dit aussi clairement. Et moi, c'est la première fois que j'entendais un président de la République dire à des journalistes, vous me demandez si un bracelet électronique, finalement, ça serait pas une mesure laxiste. Eh ben, portez-en un pendant quelques semaines et puis revenez me voir. Je trouvais que c'était, en termes de valeur symbolique, très fort.
On va parler des solutions alternatives, mais vous parlez de contre-modèle français. L'emprisonnement, c'est quand même ce qui régit le système pénitentiaire français depuis des décennies. Est-ce qu'on est à un tournant dans ce domaine-là?
Je l'espère, en tout cas c'est ce que moi j'ai appelé de mes voeux et c'est ce sur quoi le président de la République s'est engagé de façon très solennelle.
Julien Pinsard, vous y croyez, vous, à ce tournant?
Absolument pas. En réalité, vous l'avez dit, l'emprisonnement c'est la peine de référence en France. Et ce rapport, et puis aujourd'hui qui s'est traduit dans un projet de loi qui a été déposé en Conseil des ministres, ne change absolument pas ce paradigme. On reste sur une peine d'emprisonnement de référence, et même au contraire, il y a un certain nombre de dispositions qui vont accroître l'emprisonnement, en tout cas l'emprisonnement en détention.
Et vous pensez à quoi ?
Je pense notamment à la réduction des possibilités d'aménagement de peine avant incarcération par le juge d'application des peines. Cette procédure aujourd'hui, elle est applicable de manière... Enfin, il y a une saisine systématique du juge d'application des peines pour toutes les peines inférieures à 2 ans ou 1 an en récidive. Le projet de loi prévoit que ça sera désormais applicable aux peines inférieures à 1 an. Donc toutes les peines entre 1 et 2 ans vont être mises à exécution en détention de fait. Et pour les peines entre 6 mois et 1 an, alors même que c'était le principe jusqu'à présent, l'aménagement était le principe, le rapport prévoit que on doit qu'en fait cet aménagement devra être spécialement motivé et qu'on doit d'abord prévoir des modalités d'exécution, soit en détention, soit un aménagement par le tribunal correctionnel.
Pour faire simple, vous êtes pour la suppression des courtes peines ?
C'est une question, je pense, qui peut pas être, à laquelle on ne peut pas répondre comme ça. Déjà, qu'est-ce qu'une courte peine ?
Une peine inférieure à un an ?
Bah oui, enfin, si on considère que.
En tout cas, l'Allemagne, la Suisse, par exemple.
Peine courte,
L'Allemagne, la Suisse ont supprimé les courtes peines. Est-ce qu'il faut s'inspirer de ces modèles-là ?
Comment ? Alors, ils les ont supprimées, c'est-à-dire ils les ont interdits ?
Alors, ils ont proposé des alternatives.
Voilà. Bah, ça, effectivement, qu'il faut proposer des alternatives aux peines inférieures à un an. Même, en fait, il faut proposer des alternatives à l'emprisonnement de manière générale. Je crois pas qu'il faille tant raisonner en termes de quantum qu'en termes de nature de peine.
Julia Minkowski, on peut pointer, pour résumer hein, le plan Macron, un paradoxe. Le président veut mettre fin à l'incarcération automatique pour les petites peines, ce qu'on vient d'évoquer, et dans le même temps, il veut plus d'aménagement pour les peines qui sont supérieures à un an. Donc ça veut dire que là où le premier point finalement va libérer des places, eh bien le second va à nouveau remplir les prisons. On va à nouveau avoir ce problème de surpopulation carcérale.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans le projet qui a été porté, c'est qu'il s'agit d'un tout cohérent. Donc si vous prenez une mesure isolée, typiquement celle qui vient d'être évoquée, à savoir l'abaissement du seuil d'examen automatique de l'aménagement des peines à un an, là où c'était 2 ans. Les projections qui ont été faites, c'est qu'effectivement, cette mesure allait procéder à une augmentation d'environ 1100 détenus. Mais à côté de ça, vous avez des mesures pour lesquelles les projections au total, et là j'écarte la question de la détention provisoire, devraient mener, selon les projections encore une fois, à une diminution de la population carcérale de 7000 personnes, à savoir d'abord l'interdiction des peines inférieures à un mois, là-dessus c'est une inspiration du modèle allemand, la quasi-interdiction des peines d'emprisonnement ferme inférieure à 6 mois avec l'obligation pour le juge de prononcer soit une détention à domicile sous surveillance électronique, soit un placement en semi-liberté, donc vous dormez en prison, vous êtes à l'extérieur la journée, ou soit un placement dans un foyer associatif. Et puis, pour les peines entre 6 mois et 1 an, la préconisation de cette détention à domicile sous surveillance électronique et l'obligation pour le juge d'aménager, je vais employer un terme grossier, ab initio, c'est-à-dire immédiatement un aménagement de la peine qu'il prononce. Il dit, je prononce une peine de 8 mois d'emprisonnement, elle sera exécutée sous surveillance électronique, par exemple, ou autre chose. Et s'il estime qu'il n'a pas suffisamment d'informations sur la personnalité du détenu, car je crois que c'est ça dont il faudra parler tout à l'heure, c'est cette question de la personnalisation, là, il peut soit reporter sa décision, les règles ont été assouplies pour que ce soit fait de façon beaucoup plus facile, soit saisir un juge d'application des peines, hein, car dans ce dispositif, le juge d'application des peines n'est absolument pas écarté, pour que celui-ci vienne aménager la peine.
Vous évoquez le placement sous surveillance électronique, c'est une des solutions alternatives les plus préconisées. 11 000 personnes qui sont concernées actuellement, c'est un chiffre qui est en hausse. Mais pourquoi pas davantage ? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas le modèle dominant actuellement ?
Alors ça, il faut poser la question au magistrat. Moi, je suis avocate et
Juliane Pinsard, vous êtes secrétaire nationale du syndicat de la magistrature.
Alors, je vais répondre, c'est très intéressant. Effectivement, on a à peu près les mêmes chiffres, hein, si ce n'est sur l'abaissement du seuil à un an. Moi, j'ai plutôt 500 et bon, 1700 pour
on va pas
les
faire la bataille de chiffres, ok.
Un an, ça fait 2200 d'augmentation. Mais en réalité, donc sur les peines inférieures à un mois qui sont interdites, on peut imaginez, c'est l'option qui a été prise par le gouvernement, que parce qu'on ne prononcera plus des peines inférieures à un mois, d'emprisonnement, on prononcera tout autre chose. On peut aussi imaginer, et c'est ce qu'on pense malheureusement au syndicat de la magistrature, que les magistrats, parce qu'ils ne sont pas mis en mesure d'avoir les éléments en termes de personnalité et parce qu'ils ne sont pas mis en mesure d'avoir le temps d'examiner la situation du condamné à l'audience, prononceront tout simplement des peines de 2 mois d'emprisonnement au lieu de prononcer des peines d'un mois d'emprisonnement. Donc là où on envisage une baisse, et une baisse toute relative puisqu'à l'heure actuelle c'est 300 personnes qui sont incarcérées pour une peine de moins d'un mois d'emprisonnement, nous on pense que ça va tout simplement augmenter la population carcérale. S'agissant du reste, les peines inférieures à 6 mois qui pourront, où on va privilégier des peines alternatives, le prononcé de peines alternatives et notamment le bracelet électronique, des semi-libertés, des placements extérieurs, je suis navrée de le dire, mais à l'heure actuelle, c'est aussi ce qui se passe. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on prononce une peine inférieure à 6 mois d'emprisonnement, le principe, la saisine du juge d'application des peines est automatique. Donc, il y a un examen de la situation approfondi avec la saisine d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation qui va examiner la personnalité, la situation de la personne, le parcours de la personne. Et à l'issue, le principe, c'est l'aménagement de peine.
Alors,
donc, c'est l'aménagement de peine en bracelet électronique, en semi-liberté, en placement extérieur.
Si le fond...
Donc, en fait, je ne vois pas comment on gagne 7000 personnes.
Si le système fonctionne si bien, pourquoi il y a une telle surpopulation carcérale aujourd'hui en France ?
Parce que, en grande partie, les tribunaux et les magistrats prononcent trop d'emprisonnement. Mmh. D'une part, parce qu'il y a un certain nombre de délits qui, à l'heure actuelle, sont punis de peine d'emprisonnement et qui, selon le syndicat de la magistrature, ne devraient pas l'être, voire devraient même pas faire l'objet d'une infraction. Ensuite.
Trop de condamnations, donc.
Oui, enfin, trop de pénalisation et ensuite trop de recours à l'incarcération. Et ensuite, il y a la question effectivement de la personnalisation, de l'individualisation de la peine qui est très importante, qui est centrale. Nous, au syndicat de la magistrature, on avait proposé d'avoir, à chaque fois qu'on veut prononcer une peine d'emprisonnement, que le tribunal veut prononcer une peine d'emprisonnement, il doit d'abord ajourner sa décision, donc il dit la personne est coupable, ensuite il prend un temps, 4 mois à peu près, saisit un service d'insertion et de probation qui lui est spécialisé, qui a les moyens d'investiguer sur la situation du condamné, sur est-ce que c'est possible de le mettre en bracelet électronique ou est-ce que ça serait pas plus adapté de le mettre dans une structure de placement extérieur, etc., etc., en fonction de son parcours, fait une proposition et à l'issue, on réunit à nouveau le tribunal qui prend une décision sur la peine.
Tout ça, ça allonge encore le temps de la justice, non, rapidement ?
En réalité, c'est du temps qui, aujourd'hui, est pris après le prononcé de la peine par le juge d'application des peines. C'est ce qui se fait à l'heure actuelle après le prononcé de la peine. Et en réalité, oui, c'est du temps en plus, mais pour rendre une bonne justice, il faut du temps.
Et pour éviter le réflexe prison.
Et pour ça, juste laissez-moi terminer.
Ouais, rapidement.
C'est une option qui a été écartée et c'est clairement dit. La raison pour laquelle ça a été écarté, c'est parce que ça demanderait trop de magistrats, trop d'effectifs supplémentaires et que le gouvernement n'a pas envie de mettre les moyens en termes d'effectifs pour permettre la mise en place de ce dispositif.
2 personnes sur 3 entrent en prison sous le régime des prévenus. C'est-à-dire qu'elles entrent en prison dans l'attente de leur procès. Julia Minkowski, est-ce que la question des prévenus, c'est la cause principale de la surpopulation carcérale aujourd'hui en France ?
C'est une des causes très importantes, effectivement, de la surpopulation carcérale. Vous avez 70 000 personnes. On a de nouveau franchi ce seuil, vous l'avez dit au début de l'émission, les chiffres viennent de sortir. Mmh. Et dans ces 70 000 personnes, vous avez 21 000 personnes qui attendent d'être jugées. Donc, ce n'est pas une situation acceptable. On a en France le syndrome de la détention provisoire, c'est qui est vraiment très culturel. On le voit de façon facile, notamment avec les pays anglo-saxons où il y a souvent des procès très médiatisés, la détention provisoire est vraiment l'exception. Bon, pour nous, je ne dirais pas que c'est le principe, mais enfin, c'est quand même utilisé de façon très importante. Mmh. Alors, nous avons fait des propositions en ce sens et repris dans le projet de loi, notamment l'obligation justement pour faire écho à ce qui était dit tout à l'heure, l'obligation qu'il y ait une enquête de personnalité à chaque fois que la détention provisoire est requise par le ministère public pour que le juge qui prend la décision ait bien connaissance de la situation de la personne et puisse à chaque fois que la personne a ce qu'on appelle des garanties de représentation, c'est-à-dire des garanties qu'il viendra à son procès, pour faire très simple, à savoir une adresse, une famille, un travail, et bien que dans toutes ces fois-là, il n'y ait pas de placement en détention provisoire.
Juliane Pinsard vient d'appeler à penser autrement, finalement, le réflexe prison. Or, l'exécutif prévoit la construction d'ici la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron de 7000 places supplémentaires. Est-ce que c'est pas antinomique ?
Alors déjà, il faut voir dans quel état sont les prisons. Il faut voir aussi qu'on a un objectif qui est tout à fait fondamental, qui est celui de l'encellulement individuel. Ouais. Voilà.
Alors ça, c'est un vieux rêve français, l'encellulement individuel. Hein, c'est inscrit dans le code pénal depuis 1875.
Oui, alors ce n'est pas un rêve, hein, c'est une obligation conventionnelle, internationale, qui nous est posée, que malheureusement, nous n'avons toujours pas atteint. Donc, il y a quand même des contraintes qui nous obligent à prévoir la création de nouvelles places. Pour autant, ce qui avait été prévu par le gouvernement précédent, c'était la construction de 15 000 places. Ce chiffre a été revu à la baisse. C'est en effet 7 000 places d'ici à 2022. Et on a transféré du budget qui était prévu pour la construction de places sur justement les personnels, les SPIP, hein, les personnes qui font les enquêtes de personnalité et qui aident à l'aménagement des peines. Donc vraiment, ce qui est affiché par le gouvernement, c'est pas de créer de nouvelles places. Parce que de toute façon, on sait que ça a plutôt d'inefficacité, puisque les juges, ils ont un appel d'air, ils disent « bon, bah, je peux renvoyer encore des gens supplémentaires en prison », c'est pas la bonne solution. Par contre, il y a aussi un pragmatisme et des réalités qui obligent à cette construction.
Mais pourquoi pas un recours massif, par exemple, au placement extérieur, je pense par exemple au modèle ouvert. En Norvège, c'est le cas de 70% des établissements. En France, il y en a un. Pourquoi ?
C'est tout à fait culturel, parce que évidemment que ça existe, c'est prévu par le code pénal, mais ce n'est pas prononcé par les magistrats. Alors il y a très certainement des efforts pédagogiques à faire au niveau de l'ENM. Et puis, alors on va dire oui, mais c'est parce qu'on n'a pas les moyens, on ne sait pas. Donc, par exemple, pour le travail d'intérêt général, une agence va être créée afin que les magistrats aient mieux connaissance des places de travail d'intérêt général qui sont disponibles. Moi, je fais partie des gens qui pensent que une telle agence pourrait même avoir des compétences plus larges pour justement mieux informer aussi sur le placement à l'extérieur, qui me paraît dans beaucoup de cas une solution tout à fait adéquate en tant que peine.
Placement extérieur, travaux d'intérêt général, bracelet électronique, est-ce que toutes ces solutions, selon vous, Julien Pinsard, restent sous-utilisées en France à la place de l'emprisonnement, justement?
Alors, je mettrais juste un bémol sur le placement sous surveillance électronique, parce que nous, au syndicat de la magistrature, on a toujours porté que c'est une mesure qui n'a pas de sens, qui est une mesure purement de contrôle, qui n'a pas d'accompagnement qui est associé. Alors, c'est théoriquement prévu, hein, mais la réalité des services pénitentiaires d'insertion et de probation qui suivent ces mesures, c'est qu'ils sont sous-effectifs criants. Et donc, quand il y a un choix à faire, c'est sur les bracelets électroniques qu'il est fait, parce qu'il y a ce contrôle électronique, hein, assez basique. Vous êtes rentré, ça va. Vous n'êtes pas rentré, ça sonne. Ça n'a aucun intérêt en termes d'insertion, d'accompagnement. C'est voilà. Donc, le bracelet électronique mis à part, évidemment que le travail d'intérêt général, et ça je crois que tout le monde est d'accord sur le fait que c'est une peine intéressante. En revanche, je pense que le gouvernement a utilisé d'ailleurs cette mesure parce qu'elle est, elle fait consensus. Pour ne pas parler du reste, je ne pense pas que le problème principal dans les services judiciaires, ce soit le manque de place du travail d'intérêt général. Globalement, les travaux d'intérêt généraux sont prononcés et exécutés. Et on ne peut pas, malgré tout, prononcer des travaux d'intérêt généraux pour tout et n'importe quoi. Sur le placement extérieur, la question est très intéressante. On est formé à l'École nationale de la magistrature et on est incité à y avoir recours. Malheureusement, sur le territoire, il y a très peu de structures de prise en charge. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas financées et que ça coûte de l'argent. Et que, ben voilà, quand il n'y a pas d'argent, on ne peut rien faire.
Dernière question, Julia Minkowski. Qu'est-ce qu'on doit faire quand la justice a tout essayé ? Stage, sursis, travail d'intérêt général, tout ce qu'on vient d'évoquer. C'est le cas concernant les petits délinquants multirécidivistes. Et sur ce plan-là, le plan Macron ne propose pas de solution. Ça veut dire que ça va être la prison, finalement, la solution à nouveau. Rapidement.
Dans certains cas, la prison est la peine indispensable, mais c'est pas forcément dans les cas que vous évoquez. Il y a une question de prise en charge sociale plus globale, là, qui va au-delà de la justice, parce que la justice peut pas non plus être responsable de tous les maux et uniquement responsable de la récidive. Il y a évidemment beaucoup d'efforts à faire dans l'éducation, dans la formation professionnelle, dans la politique de la ville. Enfin, tout ça est extrêmement vaste. Je tiens quand même à souligner que le budget de la justice a augmenté de près de 44%, et que
dont
beaucoup
une partie
de...
pour les établissements pénitentiaires, une très grosse partie
voilà,
pour les établissements
c'est exactement,
pénitentiaires.
C'est ce que j'entends régulièrement, mais tout va à la pénitentiaire, mais c'est tant mieux puisque c'est quand même elle qui en a le plus besoin.
Et donc le réflexe prison qui n'est pas loin d'être terminé. Merci beaucoup Julia Minkowski, avocate pénaliste au barreau de Paris. Merci également à vous Julien Pinsard, secrétaire national du syndicat de la magistrature. C'est la fin de ce débat. Dans 30 secondes, le retour de l'info sur RFI.